VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Nous sommes mardi 19 juin 2018, Eric Manirakiza en direct de Washington. Voici les titres. Le Sénégal et toute l'Afrique dans la joie, victoire des Lions de la Teranga contre la Pologne, 2-1 dans leur premier match en Coupe du Monde. En RDC, le Parlement doit débattre en session extraordinaire d'une loi pour protéger les anciens présidents élus. En Côte d'Ivoire, des pluies diluviennes de la nuit dernière ont fait au moins 17 morts à Abidjan. Rencontre demain dans la capitale éthiopienne. Entre les deux rivaux sud-soudanais, le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, Kim Jong-un en Chine pour 2 jours. Dans 10 minutes, votre rendez-vous du journal du Mondial 2018 en Russie. Nous reviendrons bien entendu sur la première victoire africaine avec le Sénégal qui a battu la Pologne par 2-1. Vous aurez les détails de Yacouba Ouédraogo. En RDC, c'est l'attente d'une adresse du président Joseph Kabila concernant son avenir politique. Le Parlement se réunit demain en session extraordinaire et doit pour débattre du statut des anciens présidents élus. Le point avec Morgane Guiriec.
À 6 mois des élections, cette session extraordinaire du Parlement suscite de nombreuses attentes. Députés et sénateurs doivent débattre de la loi pour protéger les anciens présidents élus, un texte qui doit leur garantir la sécurité, celle de leur famille et de leur patrimoine. Le président Joseph Kabila pourrait également faire un discours sur l'état de la nation et nombreux sont ceux qui attendent qu'il se prononce enfin sur ses intentions à 6 mois des élections. Le second mandat du président congolais s'est achevé en décembre 2016 et selon la Constitution, il ne peut briguer un troisième mandat. Le chef de l'État congolais n'a pourtant jamais annoncé clairement ses intentions. Il s'est jusqu'ici contenté de dire que la Constitution sera respectée. Au cours d'une visite en Angola, Léonard Tché Okitundu, ministre congolais des Affaires étrangères, a évité de répondre à une question sur une éventuelle candidature de M. Kabila. Il a également nié toute tension avec l'Angola.
RDC toujours, la justice a prolongé de 15 jours la détention provisoire de 5 militants pro-démocratie poursuivis pour outrage à la personne du chef de l'État Joseph Kabila. Les 5 militants du mouvement Filimbi ont été arrêtés fin décembre, alors qu'ils mobilisaient pour la première marche des catholiques du 31 décembre pour demander au président de quitter le pouvoir. Le ministre malien de la Défense a reconnu l'implication de certains personnels de l'armée dans des violations graves qui ont occasionné mort d'homme. Propos tenus après la découverte de 25 corps dans 3 fosses communes dans le centre du pays, une semaine après une série d'arrestations par l'armée malienne. Les opérations de l'armée de la neutralisation de terroristes ont souvent été contestées par les organisations de défense des droits de l'homme et par des habitants qui dénoncent des exécutions extrajudiciaires. Le président gambien Adama Barrow a condamné les violences policières qui ont fait 2 morts ce mardi. Les manifestants sont protestés contre une pollution industrielle. Monsieur Barrow a promis que de tels événements n'auraient plus lieu. 6 civils et 16 policiers ont été aussi blessés pendant ces incidents. En Côte d'Ivoire, 17 personnes ont été tuées dans des inondations causées par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur Abidjan. On ignore le nombre de blessés, mais les sapeurs-pompiers et la marine nationale ont secouru au moins 115 personnes. Le point avec notre correspondant sur place, Ibrahim Georges Tunkara.
Une dizaine de morts selon les sapeurs-pompiers, plusieurs blessés et des disparus. La pluie qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi sur la capitale économique ivoirienne a fait de nombreuses victimes et d'importants dégâts matériels. Particulièrement touché, le quartier de la Riviera, à l'est d'Abidjan.
C'est terrible de se voir réveillé à plein 2h du matin et sans soutien, sans secours. Nous sommes vraiment désolés de voir tout ce qui se passe. Cette rue ministre, ça fait plus de combien d'années on nous promet de venir l'arranger, on ne voit personne. Vraiment, le même est venu tout à l'heure, il était vraiment au devant de tout, mais impuissant. Oui, c'est la. Ouais, on allait chercher une remorque pour venir. On me nous dit, on va tirer ça à 75 000, ça que vous voyez.
Des routes impraticables, des maisons et des ponts effondrés, des véhicules emportés par les eaux. la capitale économique ivoirienne est sous le choc. Le premier ministre ivoirien Amadougon Coulibaly, après avoir présidé une réunion ministérielle des crises, s'est rendu sur le terrain pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes. Selon les services météorologiques, la situation ne devrait pas s'arranger. Des nouvelles pluies sont annoncées. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Les Nations Unies ont prévenu que le Niger risque d'être confronté en 2018 à de nouvelles inondations qui pourraient affecter plus de 170 000 personnes. Le Tchad dit notamment que les régions de Dosso et de Niamey dans le sud-ouest sont les plus exposées. Mobilisation africaine contre la méningite, des spécialistes africains ont appelé à Abidjan à une campagne de vaccination gratuite contre la méningite pour sauver des dizaines de milliers de personnes chaque année. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar doivent se rencontrer en face à face demain à Addis Abeba pour la première fois en près de 2 ans. Une rencontre qui pourrait constituer un pas vers une paix durable dans la région, comme le dit Lionel Gahima.
La rencontre aura lieu à Addis Abeba à l'invitation du premier ministre éthiopien. Abiy Ahmed appelle les deux frères ennemis à résorber leurs divergences et à travailler à la pacification du Soudan du Sud, un pays en proie à la guerre civile depuis plus de 4 ans. La rencontre sera supervisée par l'organisation régionale IGAD qui a chapeauté une série de pourparlers de paix ces derniers mois et qui n'ont jusque-là produit aucun résultat tangible. La communauté internationale et en premier lieu les États-Unis font pression depuis de longs mois pour tenter de réactiver un accord de paix conclu en août 2015 et qui a été maintes fois violé. Cette rencontre entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président est une première depuis les violents combats qui avaient secoué Djouba en juillet 2016 et avaient amené Riek Machar à quitter la capitale sud-soudanaise pour aller vivre en exil.
Lionel Gahima, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ACR, Filippo Grandi, en visite en Libye, apprenait la coopération pour résoudre la crise.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a entamé aujourd'hui une visite de 2 jours en Chine, une semaine après sa rencontre historique avec le président américain Donald Trump. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'homme fort de Pyongyang cherche à obtenir un assouplissement des sanctions économiques en échange de ses promesses de dénucléarisation et espère le soutien de la Chine. La diplomatie chinoise, tout comme celle russe, a suggéré la semaine dernière que les Nations Unies pourraient envisager d'alléger les sanctions si Pyongyang se conformait à ses obligations. La Chine a proposé ses services diplomatiques. La semaine dernière, le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un a débouché sur une déclaration dans laquelle le dirigeant nord-coréen a réaffirmé son engagement pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'est la 3e visite en Chine du dirigeant nord-coréen en moins de 3 mois. Fin mars, il a effectué à Pékin son premier déplacement à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir fin 2011. En mai, il est retourné en Chine. Kim Jong-un et le président Xi Jinping ne s'étaient auparavant jamais rencontrés depuis leur arrivée respective au pouvoir. Pyongyang reprochait à son allié d'appliquer les sanctions internationales contre le programme nucléaire.
Yakuba Ouedraogo, les États-Unis restent ouverts au dialogue avec la Chine pour résoudre leur conflit commercial, a assuré aujourd'hui un conseiller économique de la Maison-Blanche. Le ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, a affirmé hier soir que la comparaison entre la séparation des familles d'immigrés clandestins aux États-Unis et l'Allemagne nazie était vraiment exagérée. La chancelière allemande Angela Merkel a refuté les affirmations du président américain Donald Trump qui a soutenu une nouvelle fois et contre toute évidence que la criminalité était en hausse en Allemagne en raison de l'afflux de migrants. La France et l'Allemagne s'efforcent de conclure des accords entre les principaux pays de l'Union européenne concernés par l'afflux migratoire pour envoyer des demandeurs d'asile dans le premier pays où ils ont été enregistrés. Voilà pour le journal. Maintenant, vous allez suivre le journal du Mondial, signé Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal du Mondial. L'Afrique tient enfin sa première victoire dans le Mondial 2018. Ce sont les Lions de la Teranga qui ont sauvé l'honneur. Victoire du Sénégal 2-1 devant la Pologne de Robert Lewandowski. Dans un premier acte plutôt fermé, les Lions se sont montrés beaucoup plus tranchants sur les attaques rapides, alors que les Aigles Blancs ont eu beaucoup de mal à trouver des solutions dans le camp sénégalais. Après plusieurs situations intéressantes, la bande Aliou Cissé finissait par trouver la faille sur une frappe de Gana Gueye déviée par Sionek dans son propre but, 1-0 à la 38e, même score à la mi-temps. À la reprise, Mbaye Niang a permis au Sénégal de mener 2-0 à la 60e. Krychowiak a réduit le score entre-temps pour la Pologne à la 86e, score final 2-1. Les Lions prennent ainsi la première place du groupe H aux côtés du Japon vainqueur de la Colombie sur le même score. Scène de liesse populaire à Dakar, comme vous pouvez l'imaginer. Nous avons joué notre envoyé spécial à Dakar, Abdourahmane Dia, sur place.
Yacouba, je viens de la place de l'Obélis où il y avait deux écrans géants pour des centaines de fans. L'ambiance était électrique, il faut le dire, et en ce moment dans les rues de Dakar, comme vous pouvez l'imaginer, l'ambiance est également au top. Les supporters étaient un peu tendu vers la fin du match quand la Pologne a marqué un but. Mais à part ça, tout au long des 90 minutes, c'était une ambiance électrique qui rappelle un peu celle de 2002, même si pour l'instant ce n'est pas comparable, Yacouba.
Vous êtes dans un taxi, vous avez quelqu'un avec vous, est-ce qu'on peut l'entendre?
Oui, Grain, quelle est l'ambiance à Dakar et qu'est-ce que vous pensez de la victoire des Sénégalais?
Oui, l'ambiance c'était bien, très bien. C'est une finale pour l'Afrique. Parce que tous les Africains ont battu, mais le Sénégal a battu la Pologne. Vraiment, c'est beau.
Le mondial qui bat son plein à Dakar, les affaires sont aussi florissantes grâce à la Coupe du Monde. Drapeaux et autres articles liés à l'équipe sénégalaise se vendent comme des petits pains. Notre envoyé spécial à Dakar, Abdourahmane Dia, a promené son micro au marché de Sandaga. Écoutons les réactions de quelques commerçants qui se frottent les mains.
Nous vendons quand même pas mal de maillots. Vous savez, nous exposons nos articles et tout est en vert, jaune, rouge, en espérant une victoire et nous pensons que nous pouvons gagner.
Oui, les maillots se vendent très bien. Surtout les maillots et les casquettes. Et si l'équipe gagne, les affaires iront mieux pour nous. Plus l'équipe fait de bons résultats, et mieux ça ira pour nous. Espérons que l'équipe ne perdra pas, car si elle gagne, ce sera tellement bien qu'on se fera plus d'argent que pendant les fêtes de Tabaski.
Bien avant le match Sénégal-Pologne, la Colombie a passé une sale journée face au Japon. Une défaite 2-1 et un exclu, le premier du mondial. À 10 contre 11, pendant près d'une heure et demie, la Colombie s'est mise toute seule en grande difficulté. Elle a perdu contre l'adversaire supposé le plus faible de son groupe. L'édition 2018 commence bien mal pour les partenaires de Radamel Falcao, avec une défaite concédée malgré un joli coup franc de Juan Quintero à la 39e, sur des buts de Shinji Kagawa, sur pénalty à la 6e et Yuya Osako de la tête à la 73e. Hier, l'Afrique a enregistré sa 4e défaite après l'Égypte, le Maroc et le Nigeria. Ce fut le tour de la Tunisie de passer à la trappe. Harry Kane a crucifié les Aigles de Carthage. Un doublé de l'attaquant anglais a sauvé in extremis l'Angleterre du piège tunisien 2-1. Le capitaine anglais a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu à la 91e pour délivrer les 3 Lions, jusque-là incapable de se défaire des Tunisiens accrocheurs. Kane avait aussi ouvert le score à la 11e minute avant l'égalisation tunisienne par Sassi sur pénalty à la 35e. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville.
Bonjour. Pour la 4e sortie d'une équipe africaine dans ce mondial russe, la Tunisie était venue avec la ferme intention d'inverser une tendance jusque-là négative, avec 3 défaites, aucun but marqué par les ambassadeurs du continent. En Afrique, la Tunisie a la réputation de produire le football le plus proche de celui joué de l'autre côté de la Méditerranée. Un bon équilibre entre la technique latine et le cynisme tactique à l'italienne, alternant des défis physiques et des phases créatives au-dessus de la moyenne, qui font de cette équipe la bête noire de toutes les formations d'Afrique du Nord. Dans l'incontestable opposition de style qu'ils ont eu à affronter contre une équipe anglaise renouvelée depuis l'Euro 2016, les Aigles de Carthage ont miraculeusement desserré l'étau installé par la jeune garde britannique autour des Kane, Sterling et autres Rashford, en particulier en fin de première mi-temps. Mais les Tunisiens sont aussi connus pour leur travers habituel, celui de préférer la posture de réaction à celle d'action, tout l'attentisme observé en seconde mi-temps, alors que les Africains, qui avaient récupéré la possession du ballon, se sont contentés de faire courir les Anglais, prenant des risques avec des rétropas qui vont attirer les chasseurs de buts britanniques dans la zone fatale. D'où ce deuxième but assassin d'Harry Kane au temps additionnel. La Tunisie est punie par là où elle a pêché. Il ne reste plus qu'à, au dernier de cordée, le Sénégal à en tirer les leçons.
Voilà qui met fin à ce journal du Mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et on est vers la fin de la première mi-temps entre l'Égypte et la Russie. Le score est inchangé, 0 à 0. Voilà pour le journal. Maintenant, c'est la seconde partie de cette édition, les dossiers du jour. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en RDC. Le Congrès doit se réunir à partir de demain en session extraordinaire sur convocation du président de la République. C'est le Parlement. Parmi les sujets qui sont débattus, les statuts de la protection des anciens chefs d'État congolais. Le président Joseph Kabila prononce à l'ouverture un discours à la nation et qui est beaucoup attendu. Eddy Sango a joint à Kinshasa le constitutionnaliste Laurent Otchoumbé.
Les signaux forts de la CENI démontrent à suffisance qu'effectivement la date sera tenue. Donc je pense que le président de la République vient appeler la nation à ce qu'elle se prépare au fait que ces élections aient effectivement lié à cette date, de telle sorte que pour les groupes politiques et les groupes socio-culturels, je parle de la société civile bien entendu, se mobilisent parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne croient pas que la date que la CENI a annoncée pour les élections sera respectée. Donc je pense qu'en tant que le garant de la nation, il va tout simplement appeler la population à considérer qu'il est évident que les élections auront lieu à cette date.
De quoi sera faite cette session extraordinaire qui est convoquée au Parlement?
Nous avions tous suivi la lettre de convocation de cette session extraordinaire du Parlement. Il a été noté que le Parlement, c'est-à-dire le Congrès, va s'atteler pour l'examen de la loi relative au statut des anciens chefs de l'État en République démocratique du Congo. Ça, c'est la première thématique qui sera discutée par les deux chambres du Parlement, mais également le chef de l'État va s'adresser à la nation, parce que vous savez que notre Constitution donne l'opportunité au chef de l'État de s'adresser à la nation une fois là au travers les deux chambres réunies à Congrès.
Est-ce que la Constitution ne garantit pas déjà suffisamment les statuts d'anciens chefs d'État pour qu'on en ajoute autre chose?
De façon principale, la Constitution prévoit effectivement que tout ancien chef de l'État en République démocratique du Congo devient sénateur à vie. Mais les modalités pratiques, le Parlement doit logiquement donner un peu de détails sur la faisabilité. Parce que même la Constitution ne donne pas les modalités pratiques dans combien de jours le chef de l'État sera sénateur, quelles sont les modalités pratiques de sa cooptation. Donc, je crois que toutes ces questions-là, en détail, que les parlementaires doivent mettre dans une loi pour que la nation respecte.
Dans le passé, un sénateur avait proposé une loi comme ça qui n'est jamais passée au vote.
La question n'a jamais été débattue et rejetée. C'est la toute première fois, parce que le chef de l'État a le mandat de pouvoir convoquer une session extraordinaire. C'est la toute première opportunité qui est offerte aux deux chambres du Parlement de pouvoir discuter sur une loi que moi j'estime assez importante, surtout pour notre pays.
La Constitution de la République démocratique du Congo limite à 2 les mandats du président de la République. Mais est-ce que c'est possible que celui-ci revienne après avoir laissé passer quelques mandats, un peu comme en France, on l'a vu avec Sarkozy?
Effectivement, c'est l'option qui a été levée par les constituants congolais. Tout ce qui est interdit chez nous, c'est pouvoir renfler consécutivement 3 mandats. Alors, si un seul mandat passe et le président qui a fait 2 mandats peut revenir, faire encore 2 mandats, repartir et passer un mandat et revenir encore 2 fois, il n'est pas interdit.
En fait, la formulation ne semble pas très claire là-dessus.
La lecture ministérielle de l'article 71 et sa suite démontre à suffisance que ce qui est interdit, c'est renfler de façon effectivement consécutive 3 mandats.
Laurent Otchoumbé, avocat et constitutionnaliste à Kinshasa, toujours en RDC. Les travailleurs de Twangiza Mining, une filiale de la société minière Banro Corporation, viennent de voler au secours de plus de 300 vulnérables, orphelins et malades indigents vivant dans les chefferies autour de la mine d'or de Twangiza. C'était à l'issue d'une journée de solidarité, de partage et d'encouragement de la jeunesse de la région à travers l'initiative Main de compassion. Ernest Mouhero a fait le déplacement dans la chefferie de Luwinja à 85 km de Bukavu. Son reportage.
Je suis content de ce que Banero nous a fait. Ce que j'ai vu aujourd'hui, C'est la première fois de recevoir une fâche dans ma vie. Ça va m'aider et aider ma famille.
C'est à ces termes que Charles Baririndouba, âgé de 55 ans et père de 7 enfants, a exprimé sa satisfaction après avoir reçu des travailleurs des Twangiza Mining une vache laitière et 100 000 francs congolais au cours de la cérémonie dite Mai de Compassion à la cour royale de Louindja. 200 autres familles vulnérables identifiées dans les chefferies des Kaziba, Bourigny et Louindja ont reçu également une vache de l'argent en présence du roi des Bawindja, de députés provinciaux et du gouverneur du Sud Kivu, Claude Nyamugabo.
Je suis venu communier avec notre population. J'ai vu que les vulnérables qui reçoivent ces dons sont heureux et cela est à féliciter, tout en l'encourageant à exécuter le cahier des charges qui a été signé avec le gouvernement congolais.
Selon le directeur général des Twangiza Mining, Philippe Muteba, ce geste qui intervient une fois chaque année est une façon pour cette compagnie minière d'exprimer son attachement et compassion vis-à-vis des populations vulnérables qui vivent autour de la mine des Twangiza. Cette année, poursuit-il, le montant réuni a atteint 125 000 dollars américains.
Nous sommes tous venus ici travailler, nous trouvons notre salaire ici. Mais nous voyons autour de nous qu'il y a beaucoup de pauvres. J'ai parlé à tous les travailleurs pour qu'on commence à cotiser. Je suis allé à beaucoup de fournisseurs. Avoir 125 000 dollars au bout de 9 mois, c'est quelque chose de remarquable. On a distribué, je dirais, 201 vaches à 201 vulnérables. Et puis, on a aussi donné à chacune des personnes une enveloppe de 100 000 francs. Parce que pour que nous puissions trouver des bénédictions pour notre compagnie ou pour notre mine ou pour notre environnement, il faut faire certains sacrifices pour établir ces liens sociaux entre la communauté et la compagnie.
L'ambiance était festive dans une communion sur fond de musique religieuse et barbecue où expatriés des Twangiza Mining, délégation des autorités provinciales venues de Bukavu et les agents et cadres de cette compagnie minière ont partagé un repas avec la population vulnérable. L'initiative Mai de Compassion est constituée des cotisations volontaires des travailleurs des Twangiza Mining et leurs partenaires pour créer chaque année un climat de convivialité et d'entraide vis-à-vis des vulnérables autour de la mine d'or. À travers la Mai de Compassion de cette filiale de Banro Corporation, l'orphelinat des Kaziba qui encadre 50 orphelins et l'association APEF, Action pour la promotion de l'enfant et de la femme, qui encadre 177 enfants et femmes sortis des carrés miniers, ont reçu chacun des vaches, 10 porcs et 10 chèvres avec une enveloppe supplémentaire de 1000 dollars pour le cas de l'orphelinat. Le directeur général des Twangiza Mining a remis une enveloppe de 1000 dollars à l'hôpital général d'Ifendula pour payer les frais des soins et hospitalisation des malades indigents, en plus de 100 kilos de vivres et nourriture remis à chaque malade hospitalisé. De tels rapprochements entre la compagnie et la population sont de nature à favoriser un bon climat. Depuis un temps, les filiales de Banro Corporation à l'est de la RDC sont victimes d'attaques et sabotages des bandes armées, particulièrement la filiale Namoya Mining à Salamabila dans la province du Maniema. La mine d'or des Twangiza située dans la chefferie des Louindja en territoire des Mwenga produit entre 6 000 à 10 000 onces d'or le mois. Ernest Mouero à Louindja pour VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, une mission humanitaire composée du gouvernement, des Nations Unies et de l'Union Européenne s'est rendue ce lundi à Mbanza, Ndunga, dans le Pool, pour assister des populations qui retournent dans leur village après des mois de violences armées. À la suite de cette visite, l'ambassadrice de l'Union européenne s'est dit préoccupée par les mauvaises conditions de vie des sinistrés qui retournent chez eux. Notre correspondant, Arsène Séverin, a fait le déplacement de Manzandunga. Voici son reportage.
Après avoir octroyé des fonds nécessaires pour apporter de l'aide alimentaire aux déplacés du Pool, l'ambassadeur de l'Union européenne est allé sur le terrain pour échanger avec les bénéficiaires. Saskia De Long a constaté qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire pour la réinstallation des sinistrés.
la situation dans le pool et le dénuement dans lequel les populations vivent quand même. Nous voyons que beaucoup de déplacés sont déjà rentrés chez eux, mais ils trouvent des situations extrêmement difficiles, des maisons délabrées ou bien détruites, des champs qui n'ont pas été cultivés, des points d'eau qui ont été détruits. Donc tout est à reconstruire et ça ne se fait pas d'un jour à l'autre et il faut aider donc ces populations.
La ministre en charge des Affaires sociales, Antoinette Nzinganzondo, qui suit de près ce dossier, a reconnu des faiblesses et ne sait parfois pas par quel bout commencer. Les besoins sont énormes et le gouvernement n'arrive toujours pas à réunir les fonds nécessaires.
Le relèvement, ça prend du temps. Il n'y a pas un secteur qui est plus que l'autre. L'eau, l'assainissement, l'éducation, la santé, tout est à refaire. Et évidemment, il y a le logement, parce qu'ils ont perdu leurs abris.
La situation sécuritaire est mi-figue, mi-raisin dans cette partie du pool, et les miliciens ninjas, reconnaissables à leur tignasse, n'ont pas encore rendu les armes. Cela ne rassure pas les 23 000 habitants de Mazandunga qui hésitent de retourner chez eux. L'abbé Paraclé Moutila.
Le calme est revenu. Sur la route, là, vous avez vu, il y a encore la présence de nos frères là et tout ça. Ben, qu'est-ce que ça va donner? Il y a un peu de crainte, mais je réitère qu'il y a plus de peur que de mal.
Par contre, l'assistance alimentaire apportée grâce aux fonds européens se passe bien. Le PAM a mis en place un système de cash transfer qui permet un service rapide. Dans les villages où les conditions ne sont pas réunies, les vivres sont directement servis aux bénéficiaires. Jérôme Tokanou de la Caritas Congo.
Il y a un mouvement de retour, voilà pourquoi Caritas appuie cette population avec l'aide de l'Union européenne, le PAM et tous ceux qui sont vraiment habilités à pouvoir venir en aide à cette population-là. Ça s'est stabilisé, voilà pourquoi les humanitaires fréquentent maintenant le milieu. Parce que quand il n'y a pas stabilité, les humanitaires n'ont pas aussi accès. Le ministère ne prend pas vraiment le risque de donner l'accès aux humanitaires sans qu'il y ait la paix.
Les populations continuent d'appeler au retour définitif de la sécurité pour qu'elles cultivent leurs terres et vivent dans la prospérité. De retour de Mazandunga, Arsène Séverin, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En Guinée, une grève des greffiers paralyse les tribunaux depuis quelques jours. Les grévistes étaient ce matin à la Cour suprême pour réclamer l'annulation de la suspension de leurs collègues. Le reportage à Conakry est signé Zakaria Kamara.
On a attaqué la décision du ministre, nous attendons un procès, semblait satisfait devant la Cour suprême, Mamadou Dianjalo, l'un des 5 greffiers suspendus. La démarche des greffiers est une réaction à la décision du ministre guinéen de la Justice qui a suspendu de leurs fonctions les meneurs de mouvements de grève pour troubles et atteinte au bon fonctionnement de l'administration. C'est une violation de la loi, selon Mamadou Dianjalo, porte-parole des greffiers.
Le ministre seul ne doit pas se retrouver dans son bureau, prendre un acte unilatéral comme ça pour sanctionner un greffier. Ça obéit à une certaine règle qui est contenue dans le statut particulier.
La loi fondamentale et le décret portant création du statut particulier des greffiers n'ont pas été respectés, dénonce à son tour Maître Salif Beavogui, avocat des grévistes qui se dit surpris.
Ce qui m'attriste, en lieu et place de négociation, eh bien, on passe par leur suspension. Cela me paraît sincèrement inapproprié. Je suis attristé, je suis vraiment dépassé, je suis révolté.
Les greffiers réclament de meilleures conditions de travail. Tamba Wondino a été lui aussi suspendu pour avoir créé un vide dans les cours et tribunaux.
Le premier point, le paiement des indemnités et primes de tous les greffiers. Le deuxième point, la mise en place de la commission administrative paritaire. Et le troisième point, c'est l'institution d'une formation professionnelle continue pour tous les greffiers. Et le dernier point, c'est le reclassement effectif de tous les greffiers en chef et des greffiers qui ne sont pas reclassés dans la hiérarchie A de la fonction publique.
92 greffiers ont décidé de poursuivre le mouvement. Seuls les greffiers en chef n'ont pas observé le mot d'ordre de grève. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition. Joselle Morissin sur la mise en onde. À la console, Bill Barber. À la présentation, Eric Manilakis. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous apporte une seconde chance qui s'appelle demain. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site VOA Afrique 24h sur 24. À très bientôt.